pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Lorsqu'Inès Leroux s'est installée en Bretagne et qu'elle s'est mise à tenir pour les pieds sur terre son désormais fameux journal breton, elle a commencé par enquêter sur Triskalia, la première coopérative agricole bretonne. Des dizaines de milliers de tonnes de céréales destinées à l'alimentation animale y avaient été contaminées par des insecticides pourtant interdits. Plusieurs ouvriers de la coopérative étaient tombés gravement malades. Les céréales avaient tout de même été données aux bêtes. Dans les fermes, des animaux étaient morts en surnombre. En 2014, les agriculteurs avaient été très rares à oser témoigner de cette affaire. Dans l'ensemble, ils étaient même très très réticents, comme on l'entend ici, dans cet extrait qu'elle a ressorti quelques années plus tard.
Excusez-moi, c'est des employés de la cité Nutréa qui m'ont envoyé chez vous.
Non, c'est pas la peine, je dirais.
Moi, je peux vous parler ou pas?
Non, non.
Si vous voulez, je laisse mon matériel loin. Enfin, dans
non, partez, parce que ça va m'énerver. J'ai déjà assez de problèmes comme ça.
Non, mais moi, je veux juste
Non, n'insistez pas, autrement, j'appelle les flics. Hein.
Vous n'avez pas vos troupeaux qui ont été malades?
Bon.
Dehors !
Depuis, Inès Leroux s'est obstinée à essayer de briser ce silence, à comprendre son fonctionnement, en gagnant la confiance des agriculteurs, en œuvrant à faire éclater des vérités jusque-là indicibles. Aujourd'hui, dans cette émission spéciale que nous diffusons à l'occasion du Salon de l'Agriculture, même si pour Inès c'est tous les jours le Salon de l'Agriculture, elle s'attache à y explorer les lieux de pouvoir qui structurent la filière agricole et notamment les célèbres coopératives. À la télévision, lors des prises de parole ou des manifestations organisées par la FNSEA, le syndicat majoritaire chez les agriculteurs, on voit généralement ces derniers s'en prendre aux bâtiments publics et aux grandes surfaces, davantage qu'à leurs coopératives. Pourtant, ce sont elles, leur employeur direct, elles qui en premier lieu structurent l'agriculture, l'orientent vers toujours plus de rendement, plus de travail, et qui leur procurent des revenus agricoles toujours plus bas. Aujourd'hui donc, des petits récits très personnels pour comprendre comment destins individuels et décisions managériales en provenance de coopératives et ou de la FNSEA s'entremêlent à l'infini. C'est dans Les Pieds sur Terre, sur France Culture, le journal breton d'Inès Leroux, deuxième saison, 9e épisode.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'ai tout le temps aimé les vaches et tout ça. J'ai élevé tous les vaches. J'avais 8 vaches ici, en dernier.
Qu'est-ce que faisaient tes parents?
À la ferme aussi. Cultivateurs. Les deux. Donc j'ai vu que ça. Et j'étais à une école d'agricole après, apprendre ça aussi. Et mes frères tous, bon, il y a un mécanicien, l'autre plâtrier, l'autre maçon. Personne ne voulait rester à la ferme que moi. J'étais la seule fille et c'est moi qui aimais ça. Attends, on pourra s'asseoir. Hein? Ou bien viens ici, toi. Je vais te faire ton café, là.
Christiane Pouliquin a 68 ans. Je l'ai rencontrée il y a 2 ans, au tout début de mon installation dans le hameau breton de Coatmel.
J'avais 8 vaches ici et c'était du bon lait. On écrémait le lait et on faisait le beurre. Les marchands sont venus chercher du lait après. Donc on nous avait mis un grand bac et on mettait le lait là-dedans. Et donc ils venaient le chercher tous les jours, donc ça payait bien aussi.
À cette époque, je m'intéressais plus au rapport des paysans à leurs animaux qu'à leur coopérative agricole. Mais depuis quelques mois, intriguée par l'influence des grosses coopératives bretonnes sur la vie et sur le destin des agriculteurs, je me suis rappelée de ce récit que j'avais enregistré sans jamais le diffuser.
La pingouine que j'avais eue, celle-là était douce, mais alors il fallait voir. Les enfants l'avaient appelée pingouine parce qu'elle avait une tête blanche. Pin, c'est tête breton, gouine, c'est blanc. Ah, j'ai regretté celle-là. Le jour que j'ai vendu pingouine, là, après, donc le marchand était venu la prendre le matin au camion, là. Donc on amenait ça à la foire à Châteauneuf. Et moi, je suis allée après vers 10 heures pour voir. C'était là, ils allaient la vendre. J'avais mes 2 enfants avec moi, et je me suis dit, on va essayer de voir si on la voit encore. Et je l'ai vu aller sur la balance et tout ça, pour les peser, pour le poids. C'était vendu au poids. Je vois ma vache qui arrive. Oh, je lui dis, Penguin. Elle avait une corne cassée déjà, parce que les marchands leur tapent dessus. Hein, parce qu'ils ne veulent pas bouger. Elle faisait sa tête de mule ce jour-là. Bon, ben, elle était perdue un peu depuis le matin aussi, c'est vrai. Hein. Ils sont un peu déboussolés aussi. Elle avait une corne cassée, donc ça saignait là et tout. Ah, je lui dis, Penguin, et elle s'est détournée pour me regarder. Mais donc, elle avait reconnu ma voix. Ça fait drôle, quand même. Alors, là, moi, je suis restée regarder. Oh, je dis, je vais voir si je la vois aller dans un camion. Ah ben oui, on est allé, je suis allée avec mes deux enfants voir. Et là, je l'avais vue aller dedans. Ils étaient en train de lui taper dessus. Oh. Ah, regardez. Et je vais dire, ben, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as vendu, là. Ah, oh, j'ai trouvé dur. Après, je suis rentrée. Je suis rentrée. J'ai pleuré après, en rentrant. Même mes gosses étaient tristes aussi, tous les deux. Ça fait mal, quand même. J'aurais dû à vendre, je dis, je ne viendrai plus voir. Parce que les autres étaient douces aussi, mais peut-être pas tout à fait comme ça, là. Ça, là, était vraiment, je ne sais pas, comme un gosse, quoi. Tout douce, on la caressait la tête et tout ça, elle restait là, on l'embrassait presque, elle restait avec moi. Et les enfants allaient sur son dos, elle ne bougeait pas.
Elle partait où alors?
Ou à l'abattoir. Ah oui, ça s'est vendu à l'abattoir après. Hein. 12, 13 ans qu'elle avait. J'étais longtemps à penser à ça après.
Et pourquoi à un moment vous avez dû vous séparer de vos vaches?
Eh bien là, le marchand ne venait plus pour laiter le lait. Ils avaient trop de frais, soi-disant, pour déplacer le camion. Ça coûtait trop cher en transport. Donc je dis, ben, je vais être obligée de les vendre tout. Qu'est-ce que je vais faire autrement? Donc on les avait vendus, quoi. Les autres étaient plus jeunes que celles-ci, mais bon. Alors tout le monde avait arrêté dans le quartier, là aussi. On ne savait plus que faire de ce lait-là. Donc ils ont arrêté, ils voulaient prendre les grandes fermes, après toutes les grandes fermes. Bien sûr, ils remplissaient leurs cuves là tout de suite dans les grandes fermes, hein, où il y avait 80 laitières ou 90. C'est les coopératives qui ont lâché les petits paysans. Donc après, ben, je suis restée là, toute seule, quoi, à la maison, je m'occupais à la maison.
Et votre mari?
Lui travaillait à la coopérative, comme ça il ramenait une paye quand même. Autrement, dans les usines, quoi. Il n'y avait que les usines. Et quelqu'un qui était à la ferme comme ça, ben, ça doit être dur de commencer dans une usine après aussi. Hein. J'en connais. Hein. Où il y avait 3 ou 4 enfants, ah ben, ils étaient obligés d'avoir 2 payes là. Oui, il fallait aller vite, beaucoup plus vite que nous. Hein. Nous, on prenait notre temps.
Et vous avez dû arrêter à quel âge?
50 ans à peu près.
C'était il y a 20 ans tout ça?
Oui. Ah oui, 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 oui. Ça fait un vide après. Ah ben oui, on n'a plus rien après, plus aucune bête là, ni rien. On a trouvé drôle après. Je savais plus comment m'occuper après.
René Loye, éleveur à la retraite et ancien porte-parole de la Confédération paysanne, me raconte comment depuis les années 2000, les grandes coopératives agricoles bretonnes sont toujours dans une logique d'élimination des petits agriculteurs, même si elles ne procèdent plus aussi clairement qu'à l'époque de Christiane Poulikin.
J'ai défendu des agriculteurs qui ont été exclus de leur laiterie. Et la laiterie a énormément de possibilités de le faire, en disant, écoute, ton lait n'est pas de bonne qualité, on ne collecte plus ton lait. Et comme l'agriculteur souvent ne prend pas les moyens de faire une double analyse, eh bien, l'agriculteur n'est plus collecté. On mettait en avant la question de la qualité du produit, alors que derrière ça, c'était la question des volumes, qui n'étaient pas suffisamment intéressants pour qu'on envoie le camion chercher le lait. Moi, en tant que syndicaliste, je me suis retrouvé aux côtés d'un nombre important de petits éleveurs que la coopérative ne voulait plus collecter. Et concrètement, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on bloquait le camion qui n'aille pas le collecter le lait chez le gros paysan, qui souvent était président ou administrateur de la coopérative, en lui disant un coup de mot vieux, si tu ne collectes pas le lait chez tel et tel petit producteur, le camion, on l'empêche d'aller chez toi. Et comme les vaches sont traites tous les jours, ça posait des soucis pour le gros producteur. Et comme par hasard, quasiment à chaque fois, la coopérative retournait chercher le lait parce qu'on bloquait le camion. Donc, c'était pas pour des raisons de qualité du produit, c'était parce que les producteurs ils ne produisaient pas suffisamment de façon industrielle, ils n'étaient pas suffisamment intéressants, ils n'achetaient pas suffisamment d'intrants, de produits, d'aliments ou autre chose pour la coopérative. C'est d'une violence extrême pour les petits producteurs qui souvent nous faisaient appel. C'était vraiment la chose ultime de venir nous contacter, c'était vraiment parce que c'était fini pour eux. C'était une question de vie.
Si ce n'avait pas été une question de survie, ces petits producteurs de lait n'auraient sans doute jamais osé se tourner vers la Confédération Paysanne, syndicat adverse de la FNSEA. D'une part, car la FNSEA co-gère le Crédit Agricole et la SAFER, c'est-à-dire des organismes qui donnent accès à des crédits bancaires ou à des terres. Les agriculteurs n'ont donc pas intérêt à se mettre à dos le syndicat majoritaire. D'autre part, parce que dans le monde paysan, l'idée de corporation, d'unité professionnelle derrière la bannière FNSEA reste forte. Ainsi René Loye, représentant d'un syndicat minoritaire, la Confédération Paysanne, est considéré comme un ennemi par la coopérative pour laquelle il travaille.
Moi j'ai souvent été confronté à des coopératives ou des groupements de producteurs qui m'ont mené la vie assez dure parce que j'étais en tant que syndicaliste et qu'il fallait effectivement me mettre en difficulté. J'ai eu dans ma ferme 51 contrôles en un an. Contrôle de qualité.
Contrôle de qui ?
Contrôle de la part du groupement et en espérant qu'à un moment donné on trouve un contrôle défaillant et qui puisse me mettre en difficulté. Ils avaient l'obligation, dans le type de production que je faisais, de venir minimum 4 fois, mais ils n'étaient pas obligés de venir 50 fois. Ce sont des contrôles inopinés, extrêmement difficiles à vivre. On a été plusieurs dans ce cas-là, mais comme par hasard, c'était toujours des gens de la Confédération Paysanne. Et ce qu'ils voulaient se trouver, c'était la faille. Et ils n'ont pas rien trouvé.
Vous savez ce que vous disiez qui dérangeait ?
Oui, bien sûr. Ce que je disais, c'est que je souhaitais qu'on mette en place une politique, c'était début des années 2000, de façon qu'on interdise l'utilisation de produits OGM. Et ça, ça n'a pas plu, parce que le jour d'Assemblée Générale, j'ai fait venir un scientifique de l'INRA qui a planché sur la question des OGM et qui, effectivement, a expliqué comment c'était dangereux pour notre santé, pour l'environnement, et aussi il a expliqué comment c'était la mainmise des multinationales sur notre système de production. J'ai trinqué après, je savais à quoi je m'engageais.
Et du coup, s'ils avaient réussi à trouver une faille, qu'est-ce qui se serait passé ?
On s'en va, on vend la ferme et c'est fini. C'était gagné pour eux. Et quand on quitte l'agriculture, on n'a pas le droit au chômage. Ce sont des gens qui ont des moyens énormes, qui ont toute une logistique autour de nous. Et jamais ils ne pouvaient imaginer que des paysans résistent. Parce que nous, quand on a organisé plusieurs manifs, on avait un ensemble de choses. Et ça, effectivement, ça déplaît aux décideurs économiques qui sont très chers payés. Je dois dire aujourd'hui qu'en Bretagne, on a des directeurs de coopératives qui sont payés plus de 40 000 euros de salaire par mois. Ils sont extrêmement protégés. Pour la convention des directeurs de coopératives, si on en licencie un, c'est 2 mois de salaire multiplié par le nombre d'années ancienneté. Ça veut dire qu'il s'en va avec des millions dans les poches. Donc ça, personne n'en parle. Ils ont un statut extraordinaire et ils imposent un statut aux paysans d'une précarité épouvantable.
Comme des témoins l'ont décrit dans le dernier épisode du journal breton, les agriculteurs intensifs sont devenus les mains-d'œuvre de leurs coopératives et groupements qui se prélèvent des marges importantes sur leur travail. Un témoin nous révélait qu'il rapportait à son ancienne coopérative, du temps où il travaillait pour elle, 1500 euros par mois. Pourquoi ces grands groupes ne sont-ils pas contrés par la FNSEA censée défendre les agriculteurs? Peut-être parce qu'à leur tête, on trouve des dirigeants ou des ex-dirigeants de la FNSEA. En Bretagne, les présidents de Triskalia et de la Coperl, par exemple, ont dirigé les JA, la section jeune de la FNSEA. Quant à Xavier Belin, il dirigeait de 2010 à 2017 à la fois la FNSEA et le groupe agro-industriel Avril. Autrement dit, quand les agriculteurs adhèrent à ce syndicat, c'est un peu comme si les ouvriers d'usine se faisaient représenter par une organisation patronale comme le MEDEF. Coopératives et FNSEA poussent, chacune à leur façon, les agriculteurs à travailler toujours plus, pour moins cher, et donc à rester dans le modèle intensif. Dans le Finistère Nord, appelé aussi Pays Léonard, et réputé pour être le noyau dur du système agroalimentaire breton, Marie a bien voulu me confier son histoire.
Mes parents étaient agriculteurs, donc on a repris en 1975 la ferme de mes parents. Ils faisaient auparavant la polyculture élevage, c'est-à-dire qu'il y avait un troupeau laitier, avec donc production de choux-fleurs. Et on avait une petite ferme, elle ne faisait que 13 hectares, donc c'était quand même pas une grande ferme. Mais je pense que mes parents, comme d'autres de cette génération, ont senti le besoin d'utiliser aussi des produits de traitement et des engrais chimiques pour améliorer les rendements. Et c'est en 1980 à peu près qu'on a rencontré des problèmes de santé avec un de nos enfants. En fait, il avait des rhumes à répétition et puis on ne trouvait rien de mieux à ce moment-là que de lui donner beaucoup d'antibiotiques. Donc il avait perdu beaucoup de défense immunitaire et à chaque fois qu'il fallait reprendre un traitement, il fallait augmenter la dose.
Il avait quel âge ?
Il avait 3 ans et demi. Et un jour, je me suis dit, ça peut plus durer comme ça. Si ça continue comme ça, on va le perdre. Et c'est là que je me suis décidée, sans forcément avoir l'avis de mon mari ou de mes parents, d'aller voir un homéopathe à Brest. Ouais. Et c'était une sacrée distance. Et je me souviens d'avoir fait la route et il avait des diarrhées, mais alors quelque chose de fulgurant. Avec les antibiotiques qu'il prenait, ça lui détraquait complètement son organisme. Et je me souviens qu'en faisant le trajet pour aller à Brest, plusieurs fois je m'étais arrêtée sur la route parce qu'il me disait « j'ai mal au ventre ». Et quand je suis arrivée sur Brest, je me souviens toujours, tout près du cabinet du médecin, le petit m'a dit « j'ai encore mal au ventre ». Donc écoutez, il avait été obligé de se soulager sur le trottoir. Et je me souviens qu'une personne âgée me croisait à ce moment-là, elle me dit « mais c'est une honte ». Et c'est vrai que ce médecin qui était proche de la retraite, je me souviens qu'il lui avait donné tout de suite des petites granules et puis j'avais été tellement étonnée de voir à quel point et rapidement ça avait soulagé mon petit que je lui avais dit qu'on était agriculteur. Forcément, il a parlé de quelque chose aussi qu'il défendait fortement, c'était vraiment une autre agriculture. Et je me souviens toujours qu'il avait parlé de sa mère qui fréquentait les marchés brestois et qui, dès qu'elle arrivait sur un stand, elle demandait « Est-ce qu'il y a des limaces dans vos salades ?» Tous se disaient « Ah non, certainement pas, dans la nôtre, vous ne trouverez pas une seule limace. » Eh bien, alors j'en veux pas. Et je pense qu'il a réussi à me convaincre complètement. Voilà.
Marie repense toute son alimentation et se lance dans la culture d'un potager biologique pour sa famille. Selon elle, de nombreux légumiers du Léon cultivent d'ailleurs des potagers sans traitement pour leur consommation personnelle. Mais elle, très vite, elle trouve absurde de produire pour les autres ce qu'elle ne veut pas manger elle-même. Elle décide donc de reconvertir toute son exploitation à l'agriculture biologique.
Donc après, il a fallu convaincre mon mari et c'est vrai que ça a été laborieux. Et je sais que le soir, on restait discuter. Et puis, le soir, je me disais, ça y est, j'ai réussi à le convaincre. Oh, c'est super. Et le lendemain, au réveil. Il revenait sur ses, voilà, non, je peux pas faire un choix comme ça. Et je comprends très bien parce que pour lui, c'était aussi affronter encore plus que moi le regard des autres agriculteurs. Parce que c'est quand même lui qui avait le plus l'habitude de les rencontrer, bah, quand il livrait les choux, quand il allait aux réunions syndicales, quand il rencontrait les autres agriculteurs. Donc je sais que pour lui, ça représentait énormément de difficultés de faire ce choix-là et de passer ce cap-là. Et on peut changer sa façon de manger, sa façon de penser, mais quand il s'agit de changer sa façon de travailler, ça c'est autre chose. Donc c'était quelque part aussi renier ce que bah, nos parents avaient fait et ce que le modèle dominant faisait dans le coin. Donc c'était pas rien quand même.
Vous avez mis combien de temps à le convaincre ?
2-3 ans, oui. Il fallait énormément d'inconscience pour oser faire ce que l'on a fait à cette époque-là. Oui.
Vous apparteniez à quel syndicat agricole ?
C'était le syndicat dominant, c'est-à-dire la fédération, la FNSEA. Comme on adhérait à un groupement d'agriculteurs biologiques du Finistère, on s'est dit, il n'y a pas lieu de rester dans un syndicat qui ne nous représente pas. Et je me souviens qu'on avait reçu un appel téléphonique d'un agriculteur de notre âge qui nous avait dit « Eh ben, on aura les moyens de vous faire rentrer dans les rangs, textuellement. »
L'homme qui tient ses propos n'est pas seulement agriculteur. Il est aussi représentant cantonal de la FNSEA.
Je me souviens qu'à ce moment-là, il y avait une émission qui passait le jeudi. C'était un petit peu l'équivalent d'Envoyé spécial actuellement, et je ne me souviens plus du titre de cette émission. Et dans ces années-là, dans le début des années 80, on faisait souvent des émissions qui avaient trait à la relation entre la nourriture et puis l'agriculture, la façon de produire et la qualité de la nourriture. C'était voilà, mettre en avant l'intérêt de l'agriculture biologique. Et je me souviens toujours que quand ces émissions-là passaient, la nuit qui suivait, on avait des appels, donc au milieu de la nuit, et quand on décrochait, il y avait quelqu'un au bout du fil, on entendait une respiration, il n'y avait pas un mot, et ça durait enfin, quelques minutes peut-être, et personne ne parlait. On a eu des menaces qu'on allait nous mettre le feu dans nos bâtiments, dans notre hangar, évidemment un appel anonyme. Hein. Donc ça, c'était quelque chose d'abord qui nous faisait peur, et ça montrait bien que voilà, on dérangeait beaucoup et qu'il fallait à tout prix nous empêcher de continuer dans cette voie-là. Mais après aussi, ça s'est concrétisé par un refus de nous voir pour des réunions qui rentraient même dans un cadre autre que celui du syndicat. On avait l'habitude de se rencontrer.
Vous voulez dire entre agriculteurs ?
Entre agriculteurs, voilà. Et du jour au lendemain, quand on a su qu'on avait fait ce choix-là, eh ben, on ne voulait plus de nous dans ces réunions-là. Donc on s'est retrouvés très 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 isolés et c'était vraiment jusque-là un parcours vraiment de solitude et d'isolement total. Hein.
Il n'y avait personne d'autre qui faisait, qui était en bio.
Personne. Et même au sein, dans le cadre familial, on a perdu un petit peu le soutien de mes proches et ça a été très dur. Un jour, on avait proposé à mon père, bah, écoute, on va aller te montrer la parcelle de betterave. Et donc, quand il avait vu donc, la parcelle de betterave et toutes les mauvaises herbes qu'il y avait dedans, dans cette parcelle, il nous avait dit « Mes pauvres enfants, si c'est ça la bio, eh ben, vous pouvez arrêter. Hein. » Et il y avait même une voisine qui nous avait demandé si on avait acheté des semences de mauvaises herbes tellement il y en avait dans la parcelle. Eh oui, mais... Puis bon, on voyait bien que les gens regardaient au-dessus des talus pour voir comment c'était chez nous. Mais il y a eu des années aussi, quand il y a eu une année de sécheresse incroyable. Et nous, on avait à ce moment-là fait le choix de pâture avec des mélanges et notamment de la luzerne. Et cette année-là, tout était sec. Il y avait des gens qui avaient dû acheter du fourrage. Et notre parcelle, à nous, était d'un vert. Mais... et ça, c'était quelque chose qui avait... ben, un petit peu quand même interroger certains qui se disaient « Bon, ah ben quand même, peut-être que ces choix de culture sont pas si fous que ça quand même. » Pour nous, ça a été bon, un choix d'adulte, mais qu'on a aussi fait porter à nos enfants. Ils étaient à ce moment-là à l'adolescence et à l'école, ils ont été beaucoup, on s'est beaucoup moqué d'eux, à tel point qu'ils ne voulaient plus indiquer, quand il fallait remplir les questionnaires de début d'année, que nous faisions de l'agriculture biologique. Alors le seul intérêt peut-être qu'ils ont retiré de toute cette période-là, c'est qu'on a eu énormément de stagiaires qui sont venus de tous les pays et pour eux ça a été des échanges incroyables. Des jeunes un petit peu plus âgés qu'eux, mais tellement jeunes et qui étaient surtout très convaincus par ce que l'on faisait.
Ils venaient d'où aussi ces jeunes ?
D'Argentine, d'Irlande, d'Autriche, de Pologne, on a eu deux Polonais, voilà, et beaucoup d'Allemands. Donc, par le biais de ces stagiaires, ils ont aussi compris que notre démarche, finalement, il y avait des jeunes qui l'approuvaient et qui voulaient la prolonger après dans leur pays quand ils allaient s'installer. Ça a été ce côté positif. Quand on a vu que nos résultats étaient là, on avait des belles productions. Nos choux-fleurs partaient sur l'Allemagne à ce moment-là et puis sur la Suède. On a même vendu des feuilles d'artichaut pour le laboratoire Velleda pour faire des médicaments. Donc là, il y a eu des reconnaissances quelque part quand même aussi du travail que l'on faisait. Les clients que l'on s'était fait, bon, tout ça, c'était des encouragements pour nous. Et on en avait besoin.
Et votre enfant, il a guéri ?
Ah oui, tout à fait. Maintenant, c'est un grand gaillard. Oui. Et on lui dit souvent, c'est grâce à toi, sûrement pas à cause de toi, qu'on a fait ces choix de vie, ces choix qui ont été tellement porteurs de difficultés, mais porteurs aussi d'espoir. Donc, avec les années, c'est vrai que quelquefois, on est arrivé à reparler de ça avec les enfants. Et c'est vrai qu'ils ont été fiers, quelque part, de ce que nous avons fait aussi. Parce qu'on a été obligé d'avoir beaucoup de courage, beaucoup de persévérance pour tenir. On sait le prix à payer pour aller jusqu'au bout de ses convictions. Et avec beaucoup de pudeur, ils nous disent « Mais on est fiers de ce que vous avez fait. » Et pour nous, c'est une belle récompense, voilà. Oui.
L'histoire de Marie ne se passe pas, comme on pourrait le croire, dans une époque révolue. Je connais un agriculteur laitier souhaitant rester anonyme, en reconversion vers l'agriculture biologique, victime depuis des années de dénonciations calomnieuses de la part de ses voisins adhérents à la FNSEA. Du coup, l'organisme certificateur doit faire des vérifications incessantes qui retardent sa labellisation bio et mettent en péril l'économie de son exploitation.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et le journal breton d'Inès Lérault, deuxième saison et neuvième épisode que nous diffusions à l'occasion du Salon de l'Agriculture, dont le prolongement d'ailleurs de ce que vous venez d'entendre. Ne manquez pas à 18h20 le grain à moudre d'Hervé Cardette qui est en direct du Salon de l'Agriculture et qui posera la question « Paysans des héros très discrets ?» Donc, point d'interrogation. Cette émission a été réalisée par Emmanuel Geoffroy. Merci à Christiane Pouliquin, René Loye, à Pierre Amari et bien sûr, comme pour tous les journaux bretons, à Alice Sternberg. C'est Sandrine Chaperon, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Céline Autin, notre stagiaire.